Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nainatri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1755 en réponse à une question de l'Académie de Dijon. Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes est un essai majeur de philosophie politique. Jean-Jacques Rousseau y examine une interrogation décisive, d'où viennent les écarts de richesse, de pouvoir, de prestige et d'obéissance entre les êtres humains. Et peuvent-ils être justifiés par la nature ? Son analyse ne se présente pas comme une histoire factuelle des premiers temps de l'humanité. L'état de nature est une hypothèse philosophique qui permet de distinguer les dispositions originelles de l'être humain des habitudes acquises dans la vie sociale. Rousseau oppose ainsi les inégalités naturelles, liées notamment à la force, à la santé ou à l'âge, aux inégalités morales et politiques produites par les conventions humaines. En retraçant le développement des besoins, de la propriété, de la dépendance et des institutions. Il propose une critique profonde de la civilisation moderne et prépare plusieurs questions centrales de sa pensée politique ultérieure. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, distinguer les différences naturelles des privilèges institués. Le point de départ du discours consiste à séparer deux réalités que les discours sociaux confondent volontiers. L'inégalité naturelle ou physique renvoie aux différences de santé, d'âge, de force corporelle ou de capacité intellectuelle. Elle existe sans qu'une décision collective l'ait créée, mais elle ne donne pas automatiquement à certains le droit de dominer les autres. L'inégalité morale ou politique, au contraire, désigne les privilèges relatifs à la richesse, aux honneurs, à l'autorité et au pouvoir de se faire obéir. Elle dépend de règles, de croyances et d'institutions humaines. Cette distinction est décisive car elle déplace le problème, constater que les individus ne sont pas identiques ne permet pas de justifier les hiérarchies sociales. Rousseau s'attaque ainsi au raisonnement qui transforme une différence de fait en légitimité politique. Sa question N est donc pas seulement de savoir pourquoi certains possèdent davantage, mais comment une société en vient à considérer ces écarts comme normaux ou légitimes. Le texte invite à examiner les médiations concrètes entre aptitudes individuelles et privilèges sociaux, droits de propriété, reconnaissance publique, organisation de l'autorité et consentement aux règles. L'inégalité politique apparaît alors comme une construction historique, donc comme une réalité susceptible d'être interrogée plutôt que subie comme un destin naturel. Deuxièmement, l'état de nature comme méthode pour repenser ce qu'est l'humain, Rousseau ne présente pas l'état de nature comme une époque dont il fournirait une chronique vérifiable. Il l'utilise comme une expérience de pensée pour comprendre l'humain socialisé. Il faut essayer de dégager ce qui lui appartient avant les institutions, les comparaisons et les dépendances. Dans cette condition hypothétique, l'individu vit de façon dispersée, poursuit des besoins limités et immédiats, et ne se définit pas encore par le regard d'autrui. Rousseau attribue à cet être primitif l'amour de soi, souci élémentaire de conservation, ainsi que la pitié, répugnance à voir souffrir un semblable. Il insiste également sur la perfectibilité, capacité de se transformer et d'apprendre. Cette faculté explique à la fois le développement humain et sa vulnérabilité à la corruption sociale. La méthode rompt avec les philosophes qui projetaient sur l'humain originaire les passions, les ambitions et les calculs de l'homme civil, en retirant provisoirement langage élaboré, propriété stable, compétition sociale et loi. Rousseau conteste l'idée que la guerre permanente ou la domination serait inscrite dès l'origine dans la nature humaine. L'état de nature ne constitue donc pas un programme de retour en arrière. Il sert de point de comparaison critique pour mesurer ce que la société ajoute aux besoins, aux désirs et aux rapports de pouvoir. Troisièmement, de la coopération occasionnelle à la dépendance durable, le discours décrit l'inégalité comme le résultat d'une transformation graduelle plutôt que d'une rupture unique. Les premiers rapprochements entre individus favorisent des formes limitées de coopération, notamment lorsque les conditions de vie rendent utile l'action commune. Mais ces rapprochements font aussi naître des habitudes, des attentes réciproques et des comparaisons. Avec la vie familiale plus stable, les groupes locaux et des activités partagées, les individus commencent à estimer leur place relative. Rousseau analyse ici l'apparition de l'amour-propre, passion qui ne se réduit pas à l'attachement à soi, mais dépend du jugement des autres. On ne cherche plus seulement à satisfaire un besoin, on cherche à être préféré, admiré ou reconnu. Cette logique rend les relations plus fragiles, car la valeur de chacun semble dépendre d'une comparaison continue. Le développement des techniques, puis de l'agriculture et de la métallurgie, accroît encore l'interdépendance. Les individus ont besoin des compétences, du travail ou des ressources détenues par d'autres. La coopération, qui peut améliorer les conditions matérielles, devient ainsi une dépendance lorsque les moyens d'existence sont inégalement répartis. Rousseau ne condamne pas abstraitement toute relation sociale. Il montre plutôt que l'accroissement des capacités collectives ne garantit ni l'égalité ni la liberté. Dès lors que la reconnaissance et les ressources deviennent des objets de compétition. Quatrièmement, la propriété privée comme seuil politique de l'inégalité. La formule célèbre sur le premier occupant qui clôt un terrain et parvient à faire croire qu'il lui appartient condense une thèse essentielle du discours. Rousseau ne soutient pas que tout usage individuel d'une chose crée immédiatement une injustice. Il vise le moment où la possession devient une revendication exclusive, reconnue par les autres et protégée collectivement. La propriété transforme alors les rapports humains, car elle établit une séparation durable entre ceux qui disposent de terres ou de biens et ceux qui doivent compter sur eux pour subsister. Cette évolution se renforce avec l'agriculture, qui attache les individus à des parcelles, et avec la division du travail, qui rend les capacités de production interdépendantes. Les différences initialement modestes peuvent dès lors s'accumuler et se transmettre. La pauvreté ne signifie plus seulement manquer ponctuellement de ressources naturelles, elle devient une position sociale face à des détenteurs de biens. Rousseau met en évidence un mécanisme de légitimation une fois l'ordre de propriété installé. Les règles peuvent présenter comme juste une distribution qui résulte de rapports de force antérieurs. Son analyse ne se réduit donc pas à une condamnation morale de la richesse. Elle porte sur le passage d'un rapport de fait à un droit exclusif, puis sur les effets politiques de ce droit lorsqu'il structure l'accès aux ressources et l'indépendance réelle des personnes. En dernier lieu, le faux pacte social et la consolidation du pouvoir des riches, dans la seconde partie. Rousseau décrit la mise en place des lois et du gouvernement comme une réponse ambiguë au conflit produit par l'inégalité. Face à l'insécurité, les possédants ont intérêt à proposer une association qui promette protection, paix et justice. Mais cette solution, telle que Rousseau la reconstruit, protège surtout les avantages déjà acquis. Les pauvres ou les moins puissants peuvent y consentir parce qu'ils espèrent échapper à la violence et à la précarité, tandis que les riches obtiennent la garantie publique de leur possession. Les lois ne naissent donc pas nécessairement d'une volonté commune équitable, elles peuvent institutionnaliser une domination préexistante sous l'apparence de l'intérêt général. Rousseau suit ensuite la dégradation possible des régimes politiques, l'autorité légitime se mue en arbitraire, les distinctions se rigidifient, et le pouvoir finit par dépendre de la force plutôt que du droit. Cette généalogie critique ne doit pas être confondue avec la théorie normative développée plus tard dans Du contrat social. Ici, le pacte évoqué sert surtout à montrer comment un accord apparemment rationnel peut masquer une asymétrie profonde entre les parties. Le lecteur est ainsi conduit à demander non seulement si des institutions assurent l'ordre, mais aussi qui les a établies, quels intérêts elles préservent et si les personnes soumises aux règles disposent d'une liberté politique effective. En conclusion, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes s'adresse aux lecteurs de philosophie politique, d'histoire des idées et de sciences sociales qui veulent interroger les origines des hiérarchies sans les réduire à des différences individuelles. Il intéressera particulièrement ceux qui réfléchissent au rapport entre propriété, dépendance économique, reconnaissance sociale et pouvoir institutionnel. Sa lecture demande de distinguer soigneusement l'hypothèse de l'état de nature d'un récit historique littéral. Mais cet effort est intellectuellement fécond. Rousseau fournit des outils pour examiner la manière dont des arrangements humains deviennent des évidences sociales. Le bénéfice principal du texte est de rendre visible la chaîne qui relie besoins croissants, comparaison, appropriation, loi et domination. Il aide ainsi à évaluer les justifications spontanées des privilèges, notamment lorsqu'elles invoquent le mérite, l'ordre ou la sécurité, sans considérer les conditions de départ. Parmi les grands textes sur l'origine de la société, l'ouvrage se distingue par sa méthode généalogique et critique. Là où certaines théories du contrat expliquent l'État avant tout comme un remède rationnel au désordre, Rousseau souligne que les institutions peuvent aussi stabiliser une inégalité déjà formée. Il ne livre pas un plan institutionnel prêt à appliquer, mais pose avec une force durable une question exigeante: quelle forme de dépendance et quels privilèges nos règles communes rendent-ils possibles ou légitimes? Si vous souhaitez soutenir Jean-Jacques Rousseau, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.